Erckmann Chatrian, Les Contes des bords du Rhin, Le Talion. En 1845, dit le docteur Taillefer, je fus attaché comme chirurgien aide-major à l'hôpital militaire de Constantine. Cet hôpital s'élève à l'intérieur de la Casbah, sur un rocher à pic de 300 ou 400 pieds de hauteur. Il domine à la fois la ville, le palais du gouverneur et la plaine immense, aussi loin que peuvent s'étendre les regards. C'est un point de vue sauvage et grandiose. De ma fenêtre, ouverte aux brises du soir, je voyais les corneilles et les gypaètes tourner autour du roc inaccessible et se retirer dans les fissures au dernier rayon du crépuscule. Il m'était facile de jeter mon cigare dans le rumel qui serpente au pied de la muraille gigantesque. Pas un bruit, pas un murmure ne troublait le calme de mes études, jusqu'à l'heure où la trompette et le tambour retentissaient dans les échos de la forteresse, rappelant nos hommes à la caserne. La vie de garnison n'a jamais eu de charme pour moi. Je n'ai jamais pu me faire à l'absinthe, au rhum, au petit verre de cognac. À l'époque dont je parle, on appelait cela manquer de l'esprit de corps. Mes facultés gastriques ne me permettaient pas d'avoir ce genre d'esprit. Je me bornais donc à voir mes salles, à tracer mes prescriptions, à remplir mon service, puis je rentrais chez moi, prendre quelques notes, feuilleter mes auteurs, rédiger mes observations. Le soir, à l'heure où le soleil retire lentement ses rayons de la plaine, le coude sur la pluie de ma fenêtre, je me reposais en rêvant à ce grand spectacle de la nature, toujours le même dans sa régularité merveilleuse et cependant éternellement nouveau. Une caravane lointaine se déroulant au flanc des collines, un arabe galopant aux extrêmes limites de l'horizon, comme un point perdu dans le vide, quelques chênes lièges découpant en vignettes leur feuillage sur les bandes pourpres du couchant. Et puis au loin, bien loin, au-dessus de moi, ce tourbillonnement des oiseaux de proie sillonnant l'azur sombre de leurs ailes tranchantes, immobiles. Tout cela m'intéressait, me captivait. Je serais restée là des heures entières si le devoir ne m'eût ramené forcément à la table de dissection. Du reste, personne ne trouvait à critiquer mes goûts sauf un certain lieutenant de voltigeurs, nommé Castagnac, dont il faut que je vous fasse le portrait. Dès mon arrivée à Constantine, en descendant de voiture, une voix s'élevait vers moi. « Tiens, je parie que voilà notre aide-major !» Je me retourne, je me trouve en présence d'un officier d'infanterie long, sec, osseux, le nez rouge, la moustache grisonnante, le képi sur l'oreille, la visière poignardant le ciel, le sabre entre ses jambes, c'était le lieutenant Castagnac. Et comme je cherchais à me remettre de cette étrange physionomie, le lieutenant me serrait déjà la main. « Soyez le bienvenu, docteur, enchanté de faire votre connaissance, morbleu. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Entrons, je me charge de vous présenter au cercle. » Le cercle, à Constantine, est tout bonnement la buvette, le restaurant des officiers. Nous entrons, car comment résister à l'enthousiasme sympathique d'un pareil homme? Et pourtant j'avais lu Gil Blas. « Garçon de verre, qu'est-ce que vous prenez, docteur? Du cognac? Du rhum? Non, du curaçao. »« Du curaçao? Pourquoi pas un parfait amour? Eh, vous avez un drôle de goût! » « Garçon, un verre d'absinthe pour moi est copieux. »« Oh, le coude! Bien, à votre santé, docteur !»« À la vôtre, lieutenant !» Et me voilà dans les bonnes grâces de cet étrange personnage. Inutile de vous dire que cette liaison ne pouvait me charmer longtemps. Je ne tardais pas à m'apercevoir que mon ami Castagnac avait l'habitude de lire le journal au quart d'heure de Rabelais. Cela vous classe un homme. En revanche, je fis la connaissance de plusieurs officiers du même régiment qui rirent beaucoup avec moi de cet amphitryon d'une nouvelle espèce. L'un d'entre eux, nommé Raymond du Tertre, brave garçon et qui ne manquait certes pas de mérite, m'apprit qu'à son arrivée au régiment, pareille chose lui était advenue. Seulement, ajouta-t-il, comme je déteste les carotteurs, j'ai dit son fait à Castagnac devant les camarades. Il a mal pris la chose, et ma foi, nous sommes allés faire un tour hors des murs, où je lui administrai un joli coup de pointe, ce qui lui a fait un tort énorme, car il jouissait d'un grand prestige et passait pour le bourreau des crânes grâce à quelques duels heureux. Les choses en étaient là, quand vers le milieu de juin, les fièvres firent leur apparition à Constantine. L'hôpital reçut non seulement des militaires, ce qui me força d'interrompre mes travaux pour le service. Dans le nombre de mes malades se trouvaient précisément Castagnac et du Tertre. Mais Castagnac, lui, n'avait pas la fièvre. Il était atteint d'une infection bizarre appelée délirium tremens, état de délire, de tremblement nerveux, particulier aux individus adonnés à l'absinthe. Il est précédé de malaise, d'insomnie, de tressaillement soudain, la rougeur de la face, l'odeur alcoolique de l'haleine le caractérise. Ce pauvre Castagnac se jetait à bas de son lit, courait à quatre pattes sur le plancher, comme pour attraper des rats. Il poussait des miaulements terribles, entrecoupés de ce nom cabalistique, prononcé avec un accent de fakir en extase. « Fatima, oh Fatima !» Circonstance qui me fit présumer que le pauvre garçon pouvait avoir eu jadis quelques amours malheureux dont il s'était consolé par l'abus des liqueurs spiritueuses. Cette idée m'inspira même en sa faveur une pitié profonde. C'était quelque chose de pitoyable que de voir ce grand corps maigre bondir à droite, à gauche, puis se roidir tout d'un coup comme une bûche, la face pâle, le nez bleu, les dents serrées. On ne pouvait assister à ces crises sans frémir. Au bout d'une demi-heure, en revenant à lui, Castagnac ne manquait pas de s'écrier quelquefois. « Qu'ai-je dit, docteur? Ai-je dit quelque chose? Mais non, lieutenant, si je dois avoir parlé. Voyons, ne me cachez rien. Bah, comment puis-je me souvenir des mots en l'air? Tous les malades radotent plus ou moins. » Des mots en l'air, quels mots? Eh, que sais-je, moi? Si vous y tenez, j'en prendrai note à la première occasion. Alors, il pâlissait et me regardait d'un œil fixe qui me pénétrait jusqu'au fond de l'âme, puis il refermait ses flasques paupières, pinçait les lèvres et murmurait tout bas. Un verre d'absinthe me ferait du bien. Enfin, il s'étendait, les bras le long du corps, et restait dans une immobilité stoïque. Or, un matin, comme j'entrais dans la chambre de Castagnac, je vis accourir vers moi, du fond du corridor, mon ami Raymond du Tertre. « Docteur, me dit-il en me tenant la main, je viens vous demander un service. Volontiers, mon cher, si toutefois c'est possible. Il s'agirait de me donner un billet de sortie pour la journée. » Oh, quant à cela, n'y pensons pas. Tout ce qu'il vous plaira, mais pas de billet de sortie. Cependant, docteur, il me semble que je suis bien, très bien même. Je n'ai pas eu d'accès depuis 4 jours. Oui, mais les fièvres règnent en ville, et je ne veux pas vous exposer à une rechute. Accordez-moi seulement 2 heures, le temps d'aller et de venir. Impossible, mon cher, n'insistez pas, ce serait inutile. Mon Dieu! Je connais les ennuis de l'hôpital. Je sais l'impatience qu'ont les malades de respirer l'air libre du dehors, mais il faut de la patience, que diable! Alors c'est décidé, dans une huitaine, si le mieux continue, nous verrons. Il se retira de fort mauvaise humeur. Cela m'était indifférent. Mais comme je me retournais, quelle ne fut pas ma surprise de voir Castagnac, les yeux tout grands ouverts, suivre mon camarade d'un regard étrange. « Eh bien, lui dis-je, comment êtes-vous ce matin ?»« Bien, Très bien, fit-il brusquement. C'est Raymond qui va là-bas? Oui, que voulait-il? Oh, rien. Me demander un billet de sortie que je lui ai refusé. Ah, vous avez refusé? Parbleu, cela va sans dire. Alors, Castagnac respira longuement et s'affaissant sur lui-même, il parut retomber dans sa somnolence. Je ne sais quelle vague appréhension venait de me saisir. L'accent de cet homme m'avait agacé les nerfs. Je sortis à mon tour, tout rêveur. Ce jour même, un de mes malades mourut. Je fis transporter le corps dans la salle de dissection et vers 9 heures du soir, en revenant de la pension, je descendis l'escalier qui mène à l'amphithéâtre. Figurez-vous une petite salle voûtée, haute de 15 pieds et large de 20. Ces deux fenêtres s'ouvrent sur le précipice du côté de la grande route de Philippeville. Au fond est une table inclinée et sur cette table le cadavre que je me proposais d'étudier. Après avoir déposé ma lampe sur une pierre saillante, aménagée dans le mur à cet effet, et déployé ma trousse, je commençai mon travail qui se prolongea près de 2 heures sans interruption. Depuis longtemps, le rappel était sonné. Le seul bruit qui vint à moi dans le silence était le pas cadencé de la sentinelle, s'étant d'arrêt lorsqu'elle posait la crosse à terre, puis, d'heure en heure, le passage de la ronde, le qui-vive, le chuchotement lointain d'un mot d'ordre, le vacillement du falot jetant un éclair par-dessus la rampe, bruit rapide, heurté, dont l'éloignement progressif semblait faire grandir le silence. Il était près 11 heures et la fatigue me gagnait lorsque, regardant par hasard du côté de la fenêtre ouverte, je fus saisi du plus étrange spectacle. Toute une rangée de chouettes, petites, grises, les plumes ébouriffées, les yeux verdâtres et louches, fixés sur la lampe, se pressaient au bord de la croisée, se repoussant l'une l'autre et cherchant à se faire place. Ces oiseaux hideux, attirés par l'odeur de la chair, n'attendaient que mon départ pour fondre sur leur proie. Vous dire l'horreur que me causa cette apparition serait chose impossible. Je me précipitai vers la fenêtre, toutes disparurent au milieu des ténèbres comme de grandes feuilles mortes emportées par la brise. Mais, au même instant, un bruit singulier frappa mon oreille, un bruit presque imperceptible dans le vide de l'abîme. Je m'inclinai, la main sur la barre, regardant dehors et retenant mon haleine pour mieux entendre. Au-dessus de l'amphithéâtre se trouvait la chambre du lieutenant Castagnac et au-dessous, entre le précipice et le mur de l'hôpital, passait un sentier large et tout couvert des débris de bouteilles et de poteries qui jetaient les infirmiers. Or, à cette heure de la nuit, où le moindre bruit, le plus léger soupir, devint imperceptible, je distinguai les pas et les tâtonnements d'un homme marchant sur le rebord. « Dieu fasse, me disais-je, que la sentinelle ne l'ait pas vu, qu'il hésite une seconde, et sa chute est infaillible. » Je terminai à peine cette réflexion qu'une voix rauque, étouffée, la voix de Castagnac cria brusquement dans le silence « Raymond, où vas-tu ?» Cette exclamation me traversa jusqu'à la moelle des os. C'était un arrêt de mort. En effet, au même instant, quelques débris glissèrent sur le talus, puis, le long de la rampe escarpée, j'entendis quelqu'un se cramponner avec de longs soupirs. La sueur froide découlait de ma face. J'aurais voulu voir, descendre, appeler au secours. Ma langue était glacée. Tout à coup, il y eut un gémissement, puis rien. Je me trompe. Une sorte d'éclat de rire saccadé suivit. Une fenêtre se referma brusquement, avec un petit bruit de vitres qui se brisent. Et le silence profond continue, étendit son linceul sur ce drame épouvantable. Que vous dirais-je, mes chers amis? La terreur m'avait fait reculer jusqu'au fond de la salle, et là, tremblant, les cheveux hérissés, les yeux fixés devant moi, je restai plus de 20 minutes, écoutant bondir mon cœur et cherchant à comprimer de la main ses pulsations. Au bout de ce temps, j'allai machinalement refermer la fenêtre, je pris la lampe, je montai l'escalier et je suivis le corridor qui menait à ma chambre. Je me couchai, mais il me fut impossible de fermer l'œil. J'entendais ses soupirs, ses longs soupirs de la victime, puis l'éclat de rire de l'assassin. Assassiné sur la grande route, le pistolet au poing, me disais-je, c'est affreux sans doute, mais assassiné d'un mot, sans danger. Au dehors, le sirocco s'était levé, il démenait dans la plaine avec des gémissements lugubres, apportant jusqu'à la cime du roc le sable et le gravier du désert. Du reste, la violence même des sensations qui venaient de m'agiter me faisait éprouver un besoin de sommeil presque invincible. L'effroi seul me tenait éveillé. Je me présentai au grand Castagnac en chemise, penché hors de sa fenêtre, le cou tendu, suivant du regard sa victime dans les profondeurs ténébreuses du précipice, et cela me glaçait le sang. « C'est lui, me disais-je, c'est lui. S'il se doutait que j'étais là, alors il me semblait entendre les planches du corridor crier sous un pas furtif, et je me levai sur le coude, la bouche entr'ouverte, prêtant l'oreille. Cependant, le besoin de repos finit par l'emporter, et vers 3 heures, je m'endormis d'un sommeil de plomb. Il était grand jour quand je m'éveillai. Le coup de vent de la nuit était tombé, le ciel pur, et le calme si profond que je doutai de mes souvenirs. Je crus avoir fait un vilain rêve. Chose étrange, j'éprouvai une sorte de crainte à vérifier mes impressions. Je descendis remplir mon service, et ce n'est qu'après avoir visité toutes les salles, examiné longtemps chaque malade, que je me rendis enfin chez Duterte. Je frappe à sa porte, point de réponse. J'ouvre, son lit n'était pas défait, j'appelle les infirmiers, je demande où est le lieutenant Duterte. Personne ne l'avait vu depuis la veille au soir. Puis, recueillant tout mon courage, j'entrai dans la chambre de Castagnac. Un rapide coup d'œil vers la fenêtre m'apprit que 2 vitres étaient brisées. Je me sentis pâlir. Mais, reprenant aussitôt mon sang-froid, « Quel coup de vent cette nuit » m'écriai-je. « Qu'en dites-vous, lieutenant ?» Lui, tranquillement assis, les coudes sur la table, sa longue figure osseuse entre ses mains, faisait mine de lire sa théorie. Il était impassible, et levant sur moi son morne regard, « Parbleu !» fit-il en m'indiquant la fenêtre. « Il paraît, lieutenant ?» que cette chambre est plus exposée que les autres. Ou peut-être aviez-vous laissé la fenêtre ouverte? Une contraction musculaire, imperceptible, brida les joues du vieux soudard. « Ma foi, non, » dit-il en me regardant d'un air étrange. « Elle était fermée. Ah !» Puis, m'approchant pour lui prendre le pouls, « Et la santé, comment va-t-elle ? » « Mais pas mal. En effet, il y a du mieux. Un peu d'agitation. D'ici 15 jours, lieutenant, vous serez rétabli. Je vous le promets. Seulement alors, tâchez de vous modérer. Plus de poison vert, ou sinon, prenez-y bien garde. » Malgré le ton de bonhomie que je m'efforçais de prendre, ma voix tremblait. Le bras du vieux scélérat que je tenais dans la main me produisait l'effet d'un serpent. J'aurais voulu fuir. Et puis, cet œil fixe, inquiet, qui ne me quittait pas, c'était horrible. Pourtant, je me contins. Au moment de sortir, revenant tout d'un coup comme pour réparer un oubli, « À propos, lieutenant, Duterte n'est pas venu vous voir. Un frisson passa dans ses cheveux gris. Du tertre? Oui, il est sorti depuis hier. On ne sait ce qu'il est devenu. Je supposais... Personne n'est venu me voir, fit-il avec une petite toux sèche. Personne. Il reprit son livre, et moi, je refermai la porte, convaincu de son crime comme de la lumière du jour. Malheureusement, je n'avais pas de preuves. Si je le dénonce, me disais-je, en regardant ma chambre, il niera, c'est évident, et s'il nie, quelle preuve pourrais-je donner de la réalité du fait? Aucune. Mon propre témoignage ne saurait suffire. Tout l'odieux de l'accusation retomberait sur ma tête, et je me serais fait un ennemi terrible. D'ailleurs, les crimes de ce genre ne sont pas prévus par la loi. En conséquence, je résolus d'attendre, de surveiller Castagnac, sans en avoir l'air, persuadé qu'il finirait par se trahir. Je me rendis ensuite chez le commandant de place, et je lui signalai simplement la disparition du lieutenant du tertre. Le lendemain, quelques Arabes, arrivant au marché de Constantine, avec leurs ânes chargés de légumes, dirent qu'on voyait de la route de Philippeville un uniforme suspendu dans les airs, le long des rochers de la Casbah, et que les oiseaux de proie volaient autour par centaines, remplissant le ciel de leurs cris. C'étaient les restes de Raymond. On eut des peines infinies à aller le chercher, au moyen de cordes et d'échelles fixées de distance en distance, le long de l'abîme. Les officiers de la garnison s'entretinrent 2 ou 3 jours de cette étrange aventure, on fit 1000 commentaires sur les circonstances probables de l'événement, puis on causa d'autres choses, on reprit la partie de Bézigue ou de Piquet. Les hommes exposés tous les jours à périr n'ont pas un grand fond de sympathie les uns pour les autres. Jacques meurt, Pierre le remplace, le régiment est immortel. C'est la théorie dite humanitaire en action. Vous êtes, donc vous serez, car étant, vous participez de l'être éternel et infini. Oui, je serai, mais quoi? Aujourd'hui, lieutenant de chasseur, et demain, une motte de terre? Cela mérite qu'on y regarde à 2 fois. Fin de la première partie.